découvrir des visages de l'Algérie, traverser ses couleurs, raconter ses légendes, ses dents, des villes et des histoires. Des villes et des histoires, une émission produite par Malika Lafer, réalisée par Saïd Boutelfa.
L'histoire de Boussada. Le nom quelque peu légendaire de cette cité oasienne ne veut-il pas dire la félicité, l'enchanteresse ou tout simplement la cité du bonheur? Considérée comme la porte du désert la plus proche du Tell, frange montagneuse du nord, l'oasis de Boussada s'offre comme un carrefour idéal entre la Méditerranée et le Sahara, mais aussi entre le Mzab et la ville de Constantine, fondée au XIIIe siècle sur le point le plus haut de l'éminence bordant l'oued Boussada. Connue depuis de longues années, elle a été le refuge de nombreux peintres et écrivains. L'Algérie a toujours fasciné les étrangers qui l'ont connue, suscitant enthousiasme et convoitisme, conquête et occupation. De nombreux artistes n'avaient pour armes que leurs crayons et pinceaux. Une source d'inspiration inépuisable a permis à des dizaines de peintres venus des quatre coins du globe d'immortaliser la prodigieuse diversité des sites et atmosphères. Nasreddin Dine, orientaliste converti à l'islam, est enterré à Boussada. Le mausolée porte son nom, il abrite 4 tombes, il a été édifié par l'artiste avant sa mort. La vocation touristique de Boussada est légendaire, avec ses dunes, ses palmeraies, la vieille Medina, le Vursal, le Moulin Ferrero, la Zawiyat el-Hamel, un important centre d'études islamiques qui eut la particularité d'être dirigé autrefois par une femme, Lella Zineb. Isabelle Hébérard, guide Montpassant, ainsi qu'André Gide, lui consacrent de belles pages dans leurs écrits respectifs. L'oasis de Boussada, bien que petite, est l'une des plus charmantes de l'Algérie, écrit Guy de Montpassant. Alors qu'Isabelle Hébérard écrit « Boussada, la reine fauve, vêtue de ses jardins obscurs et gardée par ses collines violettes, dort voluptueusement au bord, escarpée de l'ouette, où l'eau bruisse sur les cailloux blancs et roses ».
من كلمات الشاعر بشير مفتاح الصديق هذه المدينة جنة رحبت بكم ففي طبيعتها للضيف ففي طبيعتها للضيف الترحيب. هذا الوصل أصلا منذ عهد الأولين.
مرحبا بالزائرين.
مرحبا أهلا وسهلا رحمة بعدا وقبلا، كان هذا الوصل أصلا منذ عهد الأولين.
مرحبا بالزائرين.
هذه رباب سعادة رزقها لمن أراد، من أفاد واستفاد نال أجره ضعفين.
مرحبا بالزائرين.
هذه رباب سعادة رزقها لمن أراد، من أفاد واستفاد نال أجره ضعفين.
مرحبا بالزائرين.
مرحبا أهلا وسهلا رحمة بعدا وقبلا، كان هذا الوصل أصلا منذ عهد الأولين.
Monsieur l'Abbadi Nourdine, après une longue vie dans l'enseignement, aujourd'hui vous êtes en retraite. Mais tout d'abord, vous êtes natif de Boussaada et surtout intéressé par l'histoire de la ville. Alors, avec vous, on va raconter un petit peu l'histoire. Donc, Sidi Slimane Ben Rabia et Sidi Tamer Ben Ahmed El Fassi auraient acheté donc un lopin de terre aux abords de Noued, et ils auraient construit donc la ville de Boussaada.
Ce n'est pas exactement l'endroit que vous venez de citer, mais c'était le début. C'était le début parce que à l'origine, la zone de Boussaada n'était pas habitée du tout. C'était des nomades, c'était des éleveurs, etc. Mais lors de l'arrivée de Sidi Thamer, il trouva avant lui Sidi Slimane, qui était installé à un endroit appelé l'Ouinat. Tout de suite après, Sidi Slimane avait ouvert une zawiya, où il donnait des cours de théologie, de l'apprentissage du Coran, etc., etc. Après l'arrivée de Sidi Thamer, ils décidèrent de fonder une ville. Et évidemment, comme c'est de tradition, toutes les villes musulmanes avaient comme noyau une mosquée. Et ils entreprirent la construction de cette mosquée aux environs de 1394, exactement. C'était à la fin du XIIIe siècle. 795 Hijri, c'est la date la plus précise que nous avons. Et à partir de là, c'était un certain Sidi Dhim qui avait entrepris la construction de la mosquée. C'était un élève de Sidi Slimane. Et c'est à partir de là que, l'arche d'Abu Sa'ad a commencé à se former.
Alors ils disent qu'il serait venu de Sagil Hamra.
Sagil Hamra, je ne suis pas tellement sûr, mais Sidi Slimane venait de Tefilelt. Et c'est peut-être vrai parce que après la défaite des musulmans en Andalousie, il y a eu le reflux. Et le reflux passait automatiquement par cette zone-là.
Donc, près du XVe siècle, Sidi Slimane Ben Rabia et Sidi Tamer Ben Ahmed El Fassi, ils diffuseront l'enseignement soufi, la science et la sagesse. Et ils donnent un nom quelque peu légendaire de Boussaada.
Oui, c'est une légende, parce que dans le temps, on disait « l'fel », « l'zmenen n'choufou l'fel ». Un bon matin, Kafila, la caravane, avait démarré dans un certain endroit et ils ont décidé de nommer, de donner le nom de la ville sur le premier mot qu'ils entendraient le matin. Ça, c'est une légende. Et il se trouvait qu'il y avait une jeune fille qui avait perdu la trace de sa chienne. Elle commençait à l'appeler. La chienne s'appelait Saada, bonheur. C'était le premier son qu'ils avaient entendu à l'aube. Et ils ont décidé d'appeler la ville Boussaada, la cité du bonheur.
C'est vrai qu'on est très souvent nourri par les vieilles légendes, ce qu'on peut raconter, mythes et légendes. Est-ce que, donc, Hada Sidi Temer, qu'est-ce qu'on lui attribue comme bienfait? Il paraît que c'est le saint patron de la ville.
C'est le saint patron de la ville, et c'est un soufi. C'était enfin, il commençait à former lui-même les élèves qui étaient de passage et qui ont entendu la création d'une autre zaouïa, parce qu'il y avait celle de Sidi Slimane qui était l'origine. La zaouïa de Sidi Thamer a suivi tout de suite après. Et c'était la mosquée qu'on appelle aujourd'hui Jam' al-Nakhla, et il y a Jam' al-Sidi Thamer, la mosquée Sidi Thamer, qui abritait la grande zaouïa de Boussaada.
Et on dit Sidi Thamer, c'est Yahlef plus Sidi Thamer, qu'est-ce qu'on dit, rester 40 jours ici à Boussaada?
Sidi Thamer avait dit que celui qui entrerait à Boussaada et resterait 40 jours sans se prendre pour un véritable Boussaadi, il serait maudit. Donc après 40 jours pour nous, tout visiteur qui reste à Boussaada 40 jours est un Boussaadi.
Même on dit que ceux qui critiqueraient la ville de Boussaada seraient maudits par Sidi Thamer.
Oui, c'est Sidi Thamer qui l'avait dit.
Une population très diverse, puisqu'ils sont venus un peu partout. Des familles entières sont venues d'Andalousie, des Arabes, des Juifs, des groupes venus d'Orient, les Beni Hillel. Ça a donné une composante très riche.
Très riche, oui. J'ai un recensement qui a été fait en 1897. J'ai même des chiffres qui vont vous paraître... Bon, Boussaada, en 1897, comptait 5595 habitants. En 1897, en mars exactement. Mars 97. Dont 5020 Arabes, 135 Français, 72 Européens, autres que Français, c'est-à-dire Belges, etc. Les Maghrébins étaient 11, Tunisiens et Marocains. Les Israélites, 357. Ça, c'est des chiffres qui ont été publiés même dans le livre de Galland, qui parlait de Boussaada.
Alors, quand on fait notre émission, malheureusement, toujours on est en train d'utiliser le passé, il y avait. On a cité donc toutes ces populations qui sont d'origine très diverse. Et ça a donné une richesse, un artisanat, une culture multiple, avec une musique un peu multiple. Qu'est-ce que ça a donné, monsieur?
Bon, écoutez, dans le domaine culturel, Boussaada était très riche. Et jusqu'à l'heure actuelle. Parce que lorsque vous voyez sa constitution sociale, pratiquement la ville était construite autour des mosquées. Chaque quartier avait sa mosquée. La première était celle de Sidi Thamer. La deuxième, 50 ans après, je crois, les gens de Boussaada, les Ouled Atig, ont construit une mosquée dans leur propre quartier. Le quartier Shorfa, le quartier Zoukm, puis le quartier Mouamine. Il y avait 5 mosquées et autour de chaque mosquée s'est constitué un quartier. Et la société Boussaadi était tellement bien structurée que même les occupants, lorsqu'ils sont arrivés à Boussaada en 1849, avaient eu beaucoup de difficultés, c'est-à-dire à s'accaparer de la ville.
Alors le commerce était partagé entre les Juifs et les Mozabites?
Au début, non, c'était les citadins de Boussaada qui faisaient leur propre commerce. Ils avaient des relations avec les oasis de Tolga, de Sidi Khaled, de Ouled Jellal, etc. Le commerce était... Et la transhumance permettait les échanges les plus... On avait même un autre centre commercial qu'on appelle aujourd'hui Ain Rich. C'était un centre qui regroupait toute la région des Ouled Naïl.
Les Juifs, ils excellaient dans quoi?
Dans le commerce. Dans le commerce. Les Juifs, c'était le commerce. Il y a une anecdote, les Juifs, lorsqu'ils voyaient un Arabe se présenter aux élections, il faisait tout pour le dévier sur, vers le commerce, pour qu'il laisse la, la, la politique aux autres.
Boussada était une ville à caractère touristique qui, malheureusement, au fil des ans, l'a perdue.
Oui, évidemment, parce que il y a plusieurs événements qui ont fait que cette ville perde un peu le... Mais je crois que ça va reprendre. Parce que une ville qui a tellement de culture, qui est tellement diversifiée, ne peut que reprendre la cadence touristique.
Disons qu'elle n'a pas, à l'instar des autres villes, qu'elle n'a pas préservé son patrimoine aussi archéologique, parce que la vieille ville est en décrépitude.
Oui, c'est dommage, c'est un peu dommage. Il y a eu un projet dans les années 70 que même la population avait rejeté parce qu'il n'était pas basé sur une étude sociale très poussée que les habitants accepteraient. Mm-hmm. Il était question de détruire et reconstruire, alors que pour garder, il fallait restaurer ce qui était apte à être restauré. Et détruire quelques édifices qui n'étaient pas...
On fait un petit constat un petit peu d'échec, mais il y a des choses qui sont bien aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Eh ben, vous avez dû le constater vous-même, parce que l'hospitalité est une règle d'or chez nous. Le Boussadi ne peut jamais laisser un visiteur ou un étranger, quel que soit son niveau de vie ou son appartenance, mm-hmm. le laisser par exemple dans la rue. On a toujours invité les étrangers chez nous. Mm. Même du temps où le tourisme était florissant, le syndicat d'initiative du tourisme avait des adresses, les adresses des citoyens qui avaient des chambres à part pour héberger les touristes qui ne trouveraient pas de place à l'hôtel. Et c'était une tradition perpétuée hein, par les parents.
شرقا كردادا من الغرب عز الدين كل من زار عادة ذي مدينة السعادة يحميها شرقا كردادا من الغرب عز الدين مرحبا بالسادة مرحبا أهلا وسهلا رحمة بعدا وقبلا كان هذا الوصل أصلا منذ عهد الأولين مرحبا بالسائرين مرحبا بالسائرين مرحبا بالسائرين.
De la grande histoire, nous passons aisément à la petite qui, j'espère, fera des émules. Le couteau Boussadi. Entre le pasteur du Honna d'aujourd'hui et le chasseur néolithique de l'ouest de Boussada, ancêtre insondable, une préoccupation commune peut être identifiée. Vaincre la nature et braver le péril, non seulement pour la puissance des muscles, mais aussi par l'imagination. Le couteau Boussadi, qui tient son nom même de la ville qui le produit, n'est-il pas le descendant très perfectionné du biface effilé de l'époque bodhivienne? Le Boussadi fait partie du patrimoine dans la région.
Ha ha ha!
الرحمن دوفي راك تصنع في البوس بوسعادي هو يعني تاع التقاليد تاع المنطقه تاع بوسعاده من شحال سنه وانت راك تصنع في البوسعادي؟
انا ملي كبرت مولا 7 سنين و8 وانا نخدم فيها نخدم مش هاي بوبي من جد الجد. احنا عندنا انا عبد الرحمن يقول لي بن سعد بن لعيل بن الدوفي بن عمار بن موحد بن الدوفي.
عبد الرحمن دوفي دوك راك تصنع في البوس عادي وتصنع
كلنا خدموا فيها.
قل لي لمن يصلح هذا البوس عادي؟
وباش يذبحوا نهار العيد باش يذبحوا الزجاره باش يذبحوا الزجاره اللي يخدموا بيعوا اللحم هذاك. واحد يذبح طير الجاج باش يذبح هذا ما كرت.
هنا بوس عادي ما عندوش بوس عادي اللي ما عندوش الموس هكذا ماشي هو يعني
خاصه. وكان بكري كنا نحفوا به نخدموا نتاع الحفافه ما كانش الموس اللي انا في شويتي ما كانش الموس اللي جيلات هذا كاع كنا اللي الناس كاع عندهم يحفوا به.
والاصل تاعو منين؟
الاصل نتاعو هو الاصل نتاعو على حساب ما نسمع جماعه الاولين هو الوقت هو عنده 700 وقيله 37 سنة 36 سنة هو مركي في الدائرة هنا 7 قرون و 37 سنة ولا 35 36.
قل لي راك دوك تصنع البوس عادي الموس بوس عادي والسيف هاد المهنة يعني يستعملوها الشباب ولا تركوها؟
سي بريفي قال علمونا دراري دارونا واحد الوقت وعلمنا قطعة دراري وطلقناهم خاطر انا بقيت كنا في 31 واحد نخدموا الموس كل باتوا بقيت انا الوحيد.
المراحل يعني باش تستعمل البوس عادي المراحل باش تخدموه؟
المبرد ولا من الرصور تاع الطاكسي هذاك نخدموه ذكير اصي والله شريمه اصي نخدموا منها الموس بوس عادي.
Monsieur Khaoukha, merci de nous recevoir chez vous. Vous allez nous raconter des petites histoires. On commence par l'histoire du Boussaadi, ce fameux donc, couteau qui fait partie du patrimoine ici à Boussaada.
Parlons un petit peu du couteau de Boussaadi. Le couteau de Boussaadi, c'est une longue histoire. C'est, si vous voulez, c'est l'histoire, la culture et c'est un mythe pour la région. Le Boussaadi n'appartient pas spécialement à Boussaada. C'est une importation culturelle qui a été faite il y a à peu près 7 siècles. Ça a été ramené du Yémen. C'est l'époque des ouvertures sur l'ouverture islamique et les conquérantes. Et l'une des tribus yéménites s'est installée dans la région. Les sites historiques sont là, vous pouvez les voir si vous voulez. Et ces gens-là ont ramené avec eux la culture, parce que le couteau fait partie de la culture yéménite. Avec le temps, avec le mélange de cultures, la mosaïque de rencontres des gens qui se sont mis en place sur Boussaada, le couteau a été développé. Et il représente un petit peu les castes. Le couteau est fait en acier trempé, et il est fait avec ce qu'on appelle de l'os. C'est les cornes de veau ou d'agneau, ou de mouton qu'on égorge, qu'on récupère. Et chaque couteau a son emblème, sa culture. Et sur la région de Boussaada, il n'y a qu'une ou deux tribus qui savent faire ce couteau. Il y a les Souamers qui sont spécialistes sur ce couteau. C'est les seuls qui savent comment faire ce couteau. Et ce couteau est fait à la main, avec des éléments traditionnels, avec un four traditionnel, et chaque couteau a une valeur culturelle et une valeur sociale. Donc, on peut dire qu'il fait partie un petit peu, si vous voulez, de la culture de la cité, et c'est en même temps, c'est un trait d'union avec la culture arabe qui vient d'Orient. Et le couteau est le symbole qui relie tout le monde. C'est que tout le monde sache que Boukhto Boussaadi, c'est le symbole d'une région. Et le couteau est connu mondialement. Il est très primé, très demandé. D'ailleurs, il y a un manque de couteau Boussaadi sur le marché. Les gens veulent, toute personne veut avoir un couteau Boussaadi. C'est le symbole d'une cité. C'est l'écume de la cité. C'est un symbole de fierté. Généralement, la plupart des familles algériennes que je connais, viennent l'acheter pour avoir un symbole à la maison et en même temps pour l'utiliser généralement pour le grand jour de l'événement, c'est l'Aïd al-Kibir, pour égorger les moutons. On l'utilise pour ça. Généralement, c'était pour ça. Bon, il y a des gens qui l'achètent pour l'avoir. C'est un symbole qui est devenu à peu près un symbole national parce que qui ne connaît pas en Algérie le couteau Boussaadi? Dans toutes les frontières du pays, tout le monde le connaît.
«
Boussaada, sa place et son jardin public, ses artisans sous les arcades, ses agiles cordonniers, ses souvenirs multiples, et que devient l'artiste dans tout ça? Il créa la polémique, c'est aussi une façon de s'immortaliser. Mustapha Zmele a disparu de la scène, pour des raisons qui sont les siennes. Il nous a reçus si chaleureusement que les dernières notes de ses chansons résonnent encore dans nos têtes.
رحبت بكم ففي طبيعتها للضيف
Monsieur Mustapha Zmele, on est heureux de vous revoir parce que, bien sûr, la chanson phare de Tafandali Anissa, c'est une chanson qui reste en tout cas dans nos mémoires. Merci donc de nous recevoir à l'association Aïssa Bisker pour la promotion donc de la culture de l'enfant. C'est d'autant plus agréable parce qu'il y a le poète près de vous, il y a vos musiciens. Alors, la question qu'on se pose, qui est devenu Mustapha Zmele?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour Chien 3, je suis très heureux aussi de vous recevoir dans l'établissement association Aïssa Bisker. Je suis ce que je deviens de toute façon, malgré les obstacles que j'ai rencontrés pendant ma carrière artistique et les années que j'ai arrêté, c'est-à-dire la chanson, pendant 11 ans. Bon, j'ai repris en 98 avec le poète Béchir Meftah. Et bien sûr, un instrument synthétiseur Jamel Sherif, et son frère qui est avec nous, Fethi. De temps en temps, comme ça, on travaille ensemble, un travail bien sûr collectif, pour essayer de faire en sorte un programme nouveau dans la chanson spirituelle, vous voyez, et aussi chanson patriotique, enfin. Quelque chose de nouveau, bien sûr, voilà.
Alors, Mustapha Zmele, on peut parler de deux périodes. Vous parlez de retraite spirituelle, qui est aussi une retraite productive, parce que c'est là où on produit plus. Il y a donc deux périodes, la période de Tafandali Anissa et une période juste après 98, où votre répertoire a évolué donc vers un genre marqué par le spirituel.
Voilà, exactement. De toute façon, ce que je regrette, de toute façon, ce n'est pas le passé, c'est un peu le présent. Parce que le présent, parce qu'on ne nous fait pas appel. La télévision ne nous fait plus appel. C'est-à-dire, nous sommes, marginalisés. Voilà, exactement. Nous avons produit, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas mal de chansons spirituelles, patriotiques et tout et tout. Mais toujours est-il que nous sommes mis à l'écart. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense que je ne suis pas le seul cas. Les chanteurs, anciens chanteurs, ils ont donné de tout cœur pour la chanson algérienne, pour la culture algérienne. Mais maintenant, je vois que nous sommes vraiment oubliés.
Il n'en demeure pas moins qu'on vous sent heureux. Et puis, donc, vous avez toujours été donc, auteur, compositeur, interprète, ici à Boussaada, puisque vous êtes natif de Boussaada, donc vous représentez un peu le patrimoine. Est-ce que c'est la chanson Bédoui? Mais vous, est-ce que le Bédoui a influé sur vous, dans vos compositions?
Non, malgré que je suis d'origine de Boussaada, le Bédouin, enfin le Bédoui plutôt, ne m'a pas vraiment marqué. Mais toujours est-il qu'il y a toujours une petite note, vous voyez, que j'introduis dans ma sensibilité pour ma région, que j'introduis dans mes compositions. Mais toujours est-il comme Mustapha Zmirli, il a un genre à part, vous voyez, je suis compositeur bien sûr, et c'est ça qui a fait que je me suis imposé avec mon genre, vous voyez ce que je veux dire, et avec mon instrument, la guitare aussi, que j'ai appris depuis 1958, et jusqu'à présent elle est toujours avec moi.
C'est votre compagne.
C'est ma compagne, voilà exactement. Donc je peux dire que mes compositions... ne sont pas je n'imite pas les autres chanteurs ou autres compositeurs. Donc ce qui fait que j'ai mon genre, vous voyez, je ne fais pas de la grande musique, mais je fais de la petite musique, vous voyez, avec des paroles simples qui vont directement au cœur, vous voyez ce que je veux dire.
Mustapha Zmirli, pendant votre retraite, je ne sais pas, on parle de retraite, mais vous avez eu à travailler, vous vous êtes adonné à l'agriculture, et aujourd'hui vous êtes complètement emmêlé, c'est-à-dire vous faites de l'apiculture.
Oui, enfin, depuis 1986, je fais de l'agriculture, jusqu'à 2005, bien sûr. Ça m'a permis, bien sûr, dans ces années, pendant ces années plutôt, à, bien sûr... oublier un petit peu la musique, la chanson et tout. Bon, c'est voulu de toute façon, c'est moi qui ai voulu arrêter. Donc l'agriculture, je me suis trempé, vous voyez, dedans, j'ai plongé dans l'agriculture à fond. Donc ça m'a permis, et l'agriculture, bien sûr, quand vous êtes au milieu de votre champ d'agriculture, vous voyez, vous oubliez tout aussi.
Oui, et maintenant vous êtes plongé, vous avez mis les doigts dans le miel.
Oui, j'ai mis le doigt dans le mien. Non, pas le doigt, la main dans le mien. Donc maintenant, je vends du miel pur, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est pas moi qui fais, je suis pas apiculteur, mais je travaille avec un ami apiculteur, Souna Ben Yakhlef. Voilà, je distribue, j'ai un magasin à Djelfa et un magasin à Boussada.
Vous avez été agriculteur, mais ça vous a pas empêché de composer une chanson sur l'agriculture?
Oui. De toute façon, l'occasion nous a été donnée quand on a fait l'émission avec Boutelja et Anram, Firdiyat Fennan, vous voyez, de composer une chanson sur l'agriculture, parce que j'étais agriculteur, bien sûr, et il fallait que je compose une musique sur l'agriculture. Voilà.
نسعى في صدق النية
في الحياة داهم الأرض خيرات هاتي الفاس هاتيها نسعى في صدق النيات
نسعى في صدق النيات
كل الناس في الحياة داهم الأرض خيرات رغبة بالعزم حلا
حتى جلا
وببردة التقوى المثلى تحلا
حتى حلا
أنا من في رغبة بالعزم حلا
حتى جلا
وببردة التقوى المثلى تحلا
حتى حلا
بالخدمات الأرض أولى هات اليد يا عبد الله
يا عبد الله
يا عبد الله خدمات الأرض أولى هات اليد يا عبد الله
يا عبد الله يا عبد الله
والأرض تعطيك الخير وفق السعي لن تمل
يا عبد الله يا عبد الله
والأرض تعطيك الخير وفق السعي لن تمل يا عبد الله
يا عبد الله
ستجني منها الكثير كلما تنضج الغلة
كلما تنضج الغلة يا عبد الله
يا عبد الله
يا عبد الله
مصطفى زميلي le chant religieux a toujours été le chant des adeptes et aujourd'hui on a l'impression qu'il s'est étendu vers un public plus large même si la télévision vous boude vous avez le public qui est là.
Oui, exactement. Et ce que j'ai remarqué, de toute façon, même après 12 ans d'absence, dans le domaine, bien sûr, dans mon domaine artistique, j'ai acquis pendant ma carrière un large public que j'ai constaté seulement après les 11 ans d'absence. Quand je me déplace dans une ville ou une autre, les gens me reconnaissent. Il y en a qui ont une bonne mémoire, ils me reconnaissent tout de suite. D'autres, ils hésitent un petit peu, mais toujours est-il qu'ils arrivent au bout de quelques minutes à me reconnaître. Et à ce moment-là, leur joie, ils sont tout heureux de me rencontrer et de me dire, voilà, on est en public, on est là, on est toujours fidèle à toi. Et ce qui fait que moi, ça me fait vraiment un grand plaisir.
On peut trouver parce qu'on a parlé de deux périodes, hein, au début de notre entretien, la période... est-ce qu'on peut trouver des CD aujourd'hui sur le marché de Mustapha Zmirli?
Bon, de toute façon, je suis peut-être un des rares chanteurs, artistes algériens qui n'a pas été commerçant dans le domaine artistique, enfin, la chanson. Je n'ai pas été commerçant du tout, du tout, du tout. Parce que je n'ai pas enregistré ni de cassette, ni de CD pour le public. Ça, je reconnais que c'est une erreur de ma part. Seulement... je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à présent, j'hésite. Même jusqu'à présent, le public me dit « Pourquoi tu n'enregistres pas, même avec tes nouvelles chansons spirituelles et tout, et tout, et tout ?» Mais je ne sais pas, je suis vraiment... je ne sais pas. Voilà.
Mustapha Zmirli. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Merci à l'association Aïssa Bisker également de nous avoir reçus, à vos musiciens, à votre poète. Il faudrait absolument que vous enregistriez vos chansons pour vous immortaliser. Avant de nous séparer, donc j'aimerais que vous nous chantiez une de vos dernières compositions. Et puis au plaisir de vous voir et de vous entendre.
للفات وآيات لتنبيه وآيات لإثبات وذي آيات أنفسنا وذي آيات أنفسنا تزيل 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 الشك في الذات
شكرا.
Merci à Clear Douane pour sa collaboration. Nous vous retrouverons la semaine prochaine, toujours dans la wilaya de Msila, pour d'autres histoires.
تفضلي قولي بقربي جالسة.
تنفري من شاعر قد عفاها وساوسا وكاد في وحدته أن ينتهي آنسا. ردي حياتي جنة ساحرة يا آنسا واعتبريني فارسا فأنت عندي الفارسة. لا تنفري من شاعرين قد عفاها وساوسا وكاد في وحدته أن ينتهي يا آنسا. ردي حياتي جنة سحرة يا آنسا واعتبريني فارساً.